Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Média Canafi, ça commence bien, le chat est de retour.
Le chat est là.
Ça va et toi?
Ça va plutôt pas mal. On vous a préparé plein de podcasts là récemment parce qu'on va prendre des vacances fin de mois de décembre, mais on vous laisse pas tomber. Il y aura le Sœur Strike avec l'équipe qui sera pour la veille du jour de l'an et la veille du jour de Noël. Là, on vous a préparé le top bilan avec toute l'équipe, le top 3 de chacun. Émission, je crois, un petit peu attendue. C'est souvent le succès de l'année pour les podcasts de Sœur. Donc voilà, on a charbonné dernièrement.
Tout à fait.
Tu t'es reposé depuis ta nuit blanche au Game Awards?
Ouais, ça va mieux. J'ai repris les forces.
Bon, j'espère que t'as la forme. Parce que, au programme, nous allons revenir sur un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a animé pas mal de débats. C'est Final Fantasy XVI. Alors, j'ai pu terminer son premier DLC, mais surtout, parler de FF16 nous permettra d'élargir la discussion sur les genres de jeux vidéo. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur la dernière grosse sortie de l'année, un jeu Ubisoft qui se déroule dans l'univers des films de James Cameron. Je veux bien sûr parler de Avatar Frontiers of Pandora. Nico, c'est toi qui as pu te transformer en Navi, ou Navi. Alors, tu nous diras ce que tu as pensé du jeu. Si tu as pu parler à Aiwa, donc si tu as pu un petit peu te connecter.
J'ai bu une canette de Monster et j'ai pu communiquer avec Aiwa.
Vous retrouverez, bien entendu, l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous avons fait le bilan de la cérémonie des Game Awards 2023. Alors, beaucoup de trailers, des world premières, peu de sommeil pour nous, hein. De ce fait, nous avons oublié quelques annonces. Alors, ça rendra pas notre couverture de l'événement plus exhaustive, hein. C'est pas du tout le but, mais on aimerait un petit peu amender notre récap et citer quelques jeux, dont The Rise of the Golden Idol, suite de The Case of the Golden Idol. Nico, un jeu que te tient à cœur.
Ouais, mais vous entendrez dans le podcast bilan de l'année que c'est, j'ai beaucoup aimé The Case of the Golden Idol, qui est sorti l'an dernier. C'est pas un jeu de cette année, mais je l'ai fait cette année. Et c'était cool de voir apparaître une suite. Alors, celle-ci, elle va se passer dans les années 70. On quitte le côté les années 1800, quoi. Et ouais, je suis super impatient d'y jouer. Et c'est cool que la série continue. C'est que ça a bien fonctionné, quoi.
Un autre jeu qui nous a beaucoup plu, c'est Brothers the Tales of Two Sons, le jeu de
Joseph Fares,
qui revient dans une version remakée.
Ouais, mais le jeu original est vraiment super, hein. C'est là où on a découvert lui et sa patte et son studio. Alors bon, le remake, j'avoue, artistiquement, je suis pas forcément ultra fan de ce qu'ils ont fait. Alors, on perd un peu le côté un peu cartoon du premier.
C'est vrai, ouais. La seule scène qu'on peut voir dans les trailers, c'est justement l'un des deux frères qui perd quelqu'un, si je vous dis, si vous avez pas joué au jeu. Et je trouve que en termes de mise en scène, la première était peut-être grâce à des moyens plus contenu, mais elle était plus touchante. Là, ils en font des caisses, c'est sur l'eau. Là, il y a une tempête et tout. Je trouve que ça marche un peu moins bien, donc à voir.
Ouais, bah en tout cas, si vous avez It Takes Two, alors c'est pas vraiment le même genre de jeu. Et c'est un jeu beaucoup plus ramassé. Hein. Il fait quoi, 3 heures?
Oui, c'est
jeu.
Très cool.
Mais c'est une super expérience.
Hyper émouvante. L'intention de Joseph Fares qui va poursuivre par la suite sur ce qui est le co-op. Jouer à plusieurs, là c'est jouer tout seul avec deux personnages, c'est vraiment, et il y a un moment, vous savez, il y a certains jeux où t'as un moment de game design où tu fais waouh,
du génie,
ben là il y en a un moment où tu fais waouh complet, quoi. Ouais. Le dernier jeu de ce retour sur Light No Fire, le nouveau Hello Game.
Ouais, ben le jeu c'était deg qu'on l'ait oublié, hein, que je l'ai oublié parce que ça a l'air mortel. Alors, on se méfie parce qu'évidemment c'est la team No Man's Sky, donc est-ce qu'ils sont pas repartis à faire des promesses qu'ils ne pourront tenir avant 5 ans ou 6 ans de suivi de mise à jour? Mais ça a l'air mortel. Enfin, tu parcours une planète en multi, c'est un peu délire fantasy avec des dragons et tout. C'est ultra beau. Putain, ça a l'air vraiment super.
J'étais étonné qu'il t'intéresse parce qu'on est quand même sur du multi-procédural, pas forcément, tu vois, jeu très narratif, très. On est sur quelque chose qui va être très émergent, jouer avec les autres. Moi, ça me branche pas spécialement. Je suis très curieux, mais.
C'est comme No Man's Sky et Sea of Thieves. Hein. C'est des jeux que j'adorerais faire, mais que je joue pas du coup parce que c'est multi.
Que t'aimerais aimer, quoi.
Mais voilà, c'est des jeux que j'aimerais aimer, quoi.
Je crois qu'on a déjà fait un top 3 les jeux qu'on aimerait, mais il faudrait le refaire parce que des fois maintenant on a des nouveaux prétendants. Autre retour sûr avec une actu Fortnite, hein, avec des grosses mises à jour sur le jeu, Lego, jeu de voiture, tout ça. Alors pourquoi on vous parle de ça? Parce que c'est un move d'Epic qui est peut-être quelque part une réponse au Project Everywhere. Everywhere, un métaverse que tu nous as présenté, Nico, dans le Red Alert 102.
Ouais, alors donc là on arrive dans Fortnite au chapitre 5 et il y a eu l'ajout de 3 nouvelles expériences en fait à l'intérieur de Fortnite. Et donc 3 expériences avec 3 partenaires, donc un avec Lego, donc avec l'expérience Lego Fortnite. De ce que je crois comprendre, ça a l'air d'être plus ou moins le même principe que Fortnite, donc action et construction, logique pour Lego, dans un univers Lego. À côté de ça, on a une expérience Rocket Racing qui va arriver, donc faite par Psyonix. Alors eux, c'est les mecs que Epic a racheté et qui ont fait
Rocket League.
Rocket League. Et une troisième, Fortnite Festival. Donc là, c'est quelque chose, une expérience musicale, donc fait par Harmonix. Là aussi, les mecs de Guitar Hero qui ont été rachetés par Epic. Donc on voit que Epic ont racheté plusieurs studios avec le temps et s'en sert pour en faire construire un peu des briques dans Fortnite, rajouter du contenu. Et je me demande, en fait, effectivement, c'est pas une réponse au Everywhere, donc le projet de Build a Rocket Ship, donc mené par Leslie Benzies, donc le producteur des GTA, qui était un des piliers de la team Rockstar, et qui, dans son jeu, prévoit aussi ce côté métaverse, monde connecté, multijoueur, avec des expériences aussi, voitures, FPS, très différentes, à l'intérieur même du monde. Alors, Fortnite, on va dire, pourquoi ils ont à s'inquiéter d'un jeu qui est même pas sorti, mais bon, je pense que le mec avec Everywhere, avec un mec des moyens, mais il faudra pas qu'il tarde trop, parce que voilà, ça a laissé le temps à Fortnite de rebondir et de s'adapter, et on a eu l'annonce de GTA 6 qui sortira donc en 2025, et là aussi, il faudrait qu'il arrive un peu avant GTA 6, sous peine de se voir doubler un peu par tous les gens qui pensaient concurrencer.
Ouais. En tout cas, si c'est pas une réponse directe, les idées sont dans l'air, et t'as une mise en chantier réelle d'Epic sur le métaverse concrètement, parce que Fortnite, ça fait des années que c'est un métaverse, avec les gens qui vont sur l'île sans forcément se taper dessus pour discuter, pour voir des concerts, pour voir des films. Nolan a fait une projection dans Fortnite, mais là c'est vraiment la mise en branle de plusieurs gameplay avec plusieurs licences différentes, avec à venir peut-être un hub. Enfin, il va y avoir quelque chose de concret là où Everywhere, en fait, ils avaient clairement prononcé en fait leur désir de faire ça. Donc là ils sont en train de se tirer la bourre, quoi.
Et ça cartonne, hein, parce que Lego Fortnite, c'était un pic. Alors, je veux pas dire de bêtises, je sais pas, 7 millions d'utilisateurs. Sachant que Fortnite venait de faire sa saison, donc OG, où ils ont remis la map des origines et qui a cartonné aussi. Donc, ils sont en pleine bourre, en fait, toujours, et ils continuent à entretenir la flamme. Donc,
ont-ils perdu de la vitesse? C'est ça qui est aussi impressionnant avec Fortnite. Allez, voilà pour ces retours-ci. On va commencer sur la première partie de l'émission et je vais vous parler de Final Fantasy XVI et son premier DLC qui s'appelle Les Rémanences du Ciel. Alors, c'est un DLC qui a été shadow droppé au Game Awards la semaine dernière. Il coûte 10€. Dans ce premier DLC, en fait, il prend place juste avant la fin du jeu et en fait on va voir apparaître une nouvelle sorte, une nouvelle forme de cristaux qui provoquerait aussi des tremblements de terre. Alors j'en dis pas plus, hein, parce que ça dure 2-3 heures, donc si je continue à vous faire le topo, je vais tout vous dire. Et en gros, ce DLC, c'est une tour. Donc ça, c'est la spéciale de tous les DLC, à chaque fois c'est une petite tour, hein, ça fait plaisir. Donc on est sur un donjon, un gros boss, 4-5 mid-boss, hein, 0 quête annexe en plus, quelques nouveaux ennemis qui vont avoir un rapport avec l'intrigue, on va dire. Il y a quelques nouveaux thèmes musicaux aussi. D'ailleurs, le thème musical du boss final, moi, j'ai trouvé super étonnant, hein. Ça donne une certaine énergie au combat qui est très, très cool. Un combat final qui aurait eu une toute autre envergure si ça avait été une musique différente. Moi, j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas, Nico, si tu le fais. Je suis même pas sûr, mais je vais te poser la question. Ouais.
Ça dépendra de ce que tu vas me dire, en fait.
Mais bon, comme tous les DLC, ce qui est relou, je trouve, moi, c'est le petit moment de latence où quand tu lances ton DLC et on te réexplique pas forcément comment jouer, même si là, c'était il y a pas longtemps, c'était cet été, FF16. Moi, ça me perturbe à chaque fois. Et est-ce que toi, tu l'as cette sensation quand tu reviens sur un DLC je sais plus jouer. Ouais,
c'est pas facile de revenir à un jeu que t'as déjà poncé. Et surtout qu'aujourd'hui, la tendance, hein, c'est de faire des DLC qui arrivent bien, bien après. Là, on a le God of War qui sort un an après. Le Cyberpunk, c'était 2 ans et demi plus tard. Elden Ring, ça sera la même aussi.
Horizon, qui était cette année. Burning Shores, j'ai galéré. Parce que souvent, en plus, c'est quelque chose qui est commun dans les DLC. Les DLC sont souvent un peu plus corsés que la quête principale. Et en fait, tu gagnes, tu sais pas jouer et tu te fais rouler dessus. C'est quand même pas évident. Ce n'est pas le cas de ce DLC. J'ai réappris un petit peu à jouer assez rapidement, mais il n'y a pas spécialement de challenge.
Ce qui est marrant, c'est qu'on râle sur les tutos à chaque fois dans les jeux, mais pour le coup, dans les DLC, on cracherait pas sur un petit moment remise en contexte.
Ouais, rapide. Je sais pas comment ça pourrait se matérialiser, mais.
Ou même un truc, t'es carrément dans le menu, quoi. Genre, il te crée une petite brique de tuto.
Ouais. C'est juste avant la fin du jeu, libre à vous d'aller tuer 2-3 monstres avant, tranquillement.
Se voit dans Cyberpunk, le DLC, tu commences à un moment, t'arrives face à un boss, et tu dois scanner ses faiblesses pour l'atteindre, sinon il est invulnérable.
Tu savais plus
scanner. Je suis allé chercher sur internet comment scanner dans le jeu, parce que je ne savais plus, quoi.
Peut-être qu'une petite fenêtre tuto, là, elle aurait été propice.
Ouais, un pop-up, ouais, dude.
Bon, sinon, moi, revenir à FF16 avec ce DLC, j'ai trouvé ça cool sans plus. Après, pour 10 balles, fallait pas s'attendre à grand chose, même si très récemment pareil, au Game Awards a été shadow droppé aussi un DLC God of War, voilà, qui semblerait et cool. Alors j'ai pas eu le temps de le lancer, mais lui il est gratuit.
Ouais, gratuit, qui a l'air un petit peu long aussi, et qui très a l'air bien d'être un peu sur ce côté aussi, mettre en avant les combats, etc. Donc
alors là, c'est au-delà de ça dans le God of War, c'est que t'as un aspect roguelike. Mais t'as quand même, au-delà de cet aspect roguelike, une espèce de mise en scène, un peu comme Returnal, rappelez-vous le DLC, c'était une tour, aussi dans un format roguelike.
Donc, il était gratuit aussi, DLC de...
Il était gratuit avec Returnal, la coop.
Ouais.
Donc,
un peu greedy peut-être.
Bon, 10 balles, c'est pas, je trouve c'est pas cher, mais le DLC n'est pas ouf non plus. On sera peut-être plus exigeant avec le second DLC qui va s'appeler La Complainte du Ressac et qui va sortir au printemps pour, alors pour on sait pas trop, moi je dirais 20 euros. Je dis ça parce que le Season Pass avec les deux DLC il est à 25, donc ça ferait 30 balles à part. Oui. 25, je trouve ça plutôt cohérent.
Oui, ce serait étonnant que tu gagnes pas au moins un petit euro par-ci dans le Season Pass. Quoi.
Et donc le second DLC sera plus conséquent. On le sait, il y aura un nouveau primordial qui est Léviathan. Mais attention, on le sait aussi, à ce jour, l'équipe du studio, donc la Creative Business Unit 3, elle a été dispatchée sur d'autres projets. Il n'y a plus personne sur FF16, hormis la petite équipe chargée du second DLC. Nico, est-ce que toi, ce second DLC déjà te branche plus? Et je ne te l'ai même pas posé, mais est-ce que tu vas te tenter sur le premier?
Alors, a priori, le premier, ce que tu m'en as dit, ne m'excite pas plus que ça. Moi, ce que j'ai envie de découvrir, c'est une nouvelle zone, un petit peu d'histoire, tu vois, avoir un peu d'exploration. Le côté purement tour, combat, machin, ne me branche pas.
Là, c'est l'équivalent sur le premier DLC d'une quête annexe qui se résout à la fin. T'as un petit truc sur le lore complet qui est assez intéressant, que je te résumerai tout à l'heure si tu veux. Il y a ce boss final, moi je suis très curieux d'avoir votre avis, mais après, le second, oui.
Ouais, le second peut-être un peu plus, mais là encore, je pense, j'attendrai que tu me dises ce que t'en penses, mais j'ai quand même cette impression que l'histoire de FF16 s'est bouclée et qu'il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter. Donc.
Bah, surtout quand on a fini FF16, revenir en arrière, c'est quelque chose.
Ouais, voilà, quand tu vois Cyberpunk, au moins, ils ont placé un truc qui se passe en milieu du jeu, mais c'est un arc scénaristique en tant que tel, avec des nouveaux persos et des nouvelles intrigues. J'ai pas l'impression que là, ils sont allés aussi loin, quoi.
Non, pas du tout. Mais bon, parler de FF16, c'est une passerelle parfaite pour une chronique sur les genres de jeux vidéo. Mais on va commencer par un petit jeu. Nico, je vais te donner quelques titres et tu vas devoir me donner leur genre. Enfin, big up à notre Ludo National, parce que c'est des jeux qu'il aime bien. Alors, 13 Sentinels, c'est quoi?
C'est quoi? C'est un visual novel tactical? Ça y est, déjà, je mixe.
Ça marche. Non, mais ça marche. Marvel's Midnight Sun.
Ah, il va me tuer, là. C'est quoi? C'est un tactical aussi, non?
Avec, moi, j'ai mis un petit deck builder.
Ouais, un peu deck building, mais bon, il nous disait que c'était quand même un peu détourné.
Un petit peu, un petit peu, je trouve. Attention, un vrai Ludo, là. Against the Storm, c'est quoi?
Ouais. Alors lui, c'est un City Builders, ce qu'il nous a dit.
Rogue.
Roguelite.
Ouais. Like.
Roguelite.
Allez, Endless Dungeon. Alors, c'est moi qui en parle pas mal en ce moment.
Alors, lui, je sais pas trop. Je sais vous en parler.
C'est un Tower Defense Twin Stick Shooter Roguelite. Allez, les deux derniers. C'est un peu plus facile. Mais peut-être pas. God of War, le reboot.
God of War, le reboot. Mais c'est vrai que. Bah, un jeu.
Si tu galères, ça m'arrange.
Action RPG aventure, quoi.
Et le dernier, pour le geste. FF16. C'est tout le débat.
FF16, RPG, allez, prêt.
Alors, la problématique de la catégorisation par genre, elle a fait récemment un débat deux fois, je dirais, avec la sortie de FF16, en l'occurrence, et les Game Awards. Alors, en ce qui concerne FF16, malgré son statut de Final Fantasy, son statut de JRPG a été remis en question. Et pour ce qui est des Game Awards, Nico, tu es revenu sur le sujet il y a 15 jours, attention, c'était pas pour le récap. Donc, les catégories de jeux nommées reprenaient les genres, action-aventure, des genres finalement très fourre-tout, pas pratiques, pas très représentatif, surtout.
Ben, on se trouvait avec un Lies of P dans la catégorie des RPG, avec un Pikmin 4 dans la catégorie des simulations stratégie. Donc, on en avait quand même conclu tous les deux que c'était pas très, plus très pertinent, peut-être.
Mais la question à $1 million, c'est pourquoi on catégorise les jeux en genre? Alors ça, c'est normal, hein. On est humain, on est obligé de tout classer. Et dès la naissance du média, les joueurs ont naturellement commencé à parler de différents genres de jeux. C'est le cas dans le jeu vidéo, mais c'est aussi le cas partout. Néanmoins, dès l'émergence du jeu vidéo, des soucis ont pu apparaître dans ces genres, ce qui est tout à fait logique, car les genres sont nés en fait de l'hybridation des gameplays, donc de l'amalgame de deux choses distinctes. Un exemple tout bête, et je prendrai souvent dans cette chronique l'exemple du RPG, il y a eu le RPG, le tactical RPG, l'action RPG. Le souci, c'est qu'il faut se demander jusqu'où doit aller la fusion des genres, en tout cas dans leur appellation. Après, dans la proposition de gameplay, de game design, évidemment qu'il faut fusionner.
Oui, mais c'est vrai que dans tous les exemples que tu as donnés, j'étais incapable de citer qu'un genre. À chaque fois, tu m'en mixais plusieurs trucs, quoi.
C'est peut-être le problème. Après, catégoriser les jeux par genre, c'est aussi utile pour se faire comprendre. Que ça soit les éditeurs pour vendre leurs jeux, les développeurs pour expliquer leurs jeux, les journalistes pour critiquer les jeux. Avoir des genres, c'est avoir la possibilité d'utiliser des mots simples qui vont synthétiser des idées complexes. Sauf qu'à présent, avec le temps, ces genres ne facilitent plus la compréhension, au contraire, ils vont la détériorer. Et utiliser ces mots-clés, les genres donc, ne clarifient plus le message, ils l'embrouillent en faisant des raccourcis trop gros. parce que ça fait un moment que les jeux s'éloignent de plus en plus des canons désignés par les genres de l'époque. L'un des jeux qui m'a fait tiquer, évidemment, c'est FF16. Et pour ce jeu, avant même de s'interroger sur son statut de JRPG, on peut même se demander si c'est un RPG. Mais finalement, c'est quoi un RPG? Ça veut dire quoi? C'est une question un peu tarte à la crème, mais si la question est devenue si ridicule à poser, c'est aussi parce qu'elle est pas si simple à répondre. C'est quoi l'expression déjà? On va tout de suite y répondre là. Tu sais, le mec qui faisait ses vidéos là.
Ouais, ouais,
parce que quand je l'ai dit, je me suis dit, putain, j'ai pris
la question. La question est vite répondue.
La réponse, elle est pas si vite répondue. Mais RPG, c'est quoi? Est-ce que c'est jouer un rôle? On peut jouer un rôle dans de nombreux jeux, dans un jeu de voiture ou dans un jeu tout, que je sache. Est-ce qu'un RPG, c'est un jeu dans lequel on fait des choix qui auront des conséquences? Ok, mais on fait des choix dans tous les jeux vidéo, c'est le principe même du média d'avoir des expériences qui sont personnelles. Un RPG, ça serait donc de faire des choix, mais des choix dans la narration. Sauf que la réponse, elle reste la même. Le nombre de jeux qui nous ouvrent des possibilités en termes de scénario, ils sont énormes. Du coup, un jeu Telltale ou un David Cage, est-ce que c'est un RPG? Certains l'ont tenté dans la presse, il y a un moment. Fahrenheit, RPG ultime.
Ouais.
C'était gameplay RPG ou c'était background? Non, c'était gameplay RPG.
C'était gameplay RPG, mais c'était le dernier numéro de gameplay RPG avant background, je crois. Mais c'est pas con.
Ça peut s'entendre. Mais peut-être parle-t-on de choix dans le sens personnalisation, tu vois, les builds. Mais du coup, un jeu qui ne propose que peu de variété dans les capacités et les équipements disponibles, comme FF16, c'est pas un RPG. Du coup, on désigne comment Chrono Trigger qui est exactement dans le même cas de figure et qui est pour le coup, lui, à la belle époque du RPG. Vous le voyez, j'ai même pas poussé le raisonnement à l'absurde et c'est déjà problématique. Et pour ce qui est du J, donc Japanese de JRPG, alors là, laisse tomber, on se perdrait en conjecture. D'ailleurs, on a publié un livre totalement dédié à cette question, qui est derrière nous pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est dire si le sujet est dense, et Jordan Mogé, qu'on salue, s'y est attelé avec brio, on vous conseille ce magnifique ouvrage. Mais rapidement, juste rapidement, un JRPG, c'est quoi? Est-ce que c'est un jeu qui doit être fait au Japon? Est-ce que c'est lié au système de combat? Est-ce que c'est lié au système d'expérience? À la structure même du jeu? Prendre en compte toutes ces caractéristiques, ça peut s'entendre, et c'est en partie vrai. Mais il y a des exceptions systématiques. L'exemple cadeau, c'est pour moi, c'est Dark Souls. Alors, JRPG ou pas? C'est pourtant un jeu fait au Japon, avec un système d'expérience, avec énormément d'armes, de personnalisation, et ça serait pas un JRPG? C'est quand même pas évident, cette histoire.
Sapristi, comme on dit.
Ce que je veux dire, c'est que la désignation du genre n'a plus trop de sens à ce jour. Et plus le jeu est moderne, plus il est dur à catégoriser. Depuis longtemps, tous les genres de jeux s'amalgament, se mélangent, et notamment le RPG. Actuellement, on retrouve du RPG absolument partout. Du jeu de voiture au beat'em up. Le RPG, ça devient plus une approche de game design qu'un genre. Comme le monde ouvert. Il y a des mondes ouverts dans tous les genres de jeux, et de la même manière, il y a de plus en plus de RPG dans tous les genres aussi. En fait, les spécificités de chaque genre se voient fragmentées, découpées en mécaniques, et voir une seule de ces mécaniques dans un jeu l'associe automatiquement au genre de la mécanique en question. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Imaginons le JRPG, tu le découpes en mécaniques, on va dire t'as le système d'expérience, le système de combat, mais t'as un jeu, rien à voir, il prend un système au tour par tour. Eh, c'est un JRPG? Je vais vous donner deux exemples que j'aime bien. Yakuza 6 serait un JRPG uniquement à cause de son système de combat au tour par tour. Alors que, pas vraiment. Et Persona 5 Strikers ne serait plus un JRPG, alors qu'il est à la suite directe de Persona 5, parce qu'il a, justement, un système de combat façon Musou. Ce qui est dommage, dans ce cas, c'est que ce que représente le jeu dans son ensemble ne compte plus. On se focalise sur des détails pour y associer un genre. On perd la big picture, comme on dit aux États-Unis. Regardez par exemple le genre du rogue, qui est né d'un jeu nommé Rogue, sorti en 1980. Alors le genre, il a évolué, il y a maintenant les rogue-like, les rogue-lite. Et encore, il y a des débats. Mais ces appellations, c'est des caricatures, car beaucoup de jeux comprennent un petit peu de rogue, et pourquoi pas même un petit peu de RPG. Ils sont ni des rogues, ni des RPG. C'est un peu des deux, c'est autre chose. C'est des roguelike RPG, peut-être.
Et déjà, je trouve l'appellation du roguelike ou roguelite, je trouve que c'est du génie, tu vois. Ça, c'est les mecs qui se creusent la tête. Ça.
On l'a vu, se servir des genres pour désigner les jeux est utile. Mais comme le langage, la langue, l'important, C'est l'usage des mots, des expressions qui fait foi. Les règles de l'Académie française, c'est bien, c'est une chose, c'est un cadre. L'usage en est une autre, et c'est toujours l'usage qui l'emporte. Sauf que là, ça commence à poser un souci dans l'usage. Actuellement, quand on utilise les genres pour parler des jeux, on se comprend plus, parce que notre propos devient trop vague. En fait, on désigne un jeu par son genre uniquement par usage, par habitude, et non pour ce qu'il représente réellement. Pire, On juge un jeu pour ce qu'il est censé être, de par son genre désigné, et non pour ce qu'il est réellement. Par exemple, on va juger FF16 pour le RPG qu'il devrait être.
Ouais, ça devient contre-productif, et idem pour Cyberpunk, encore une fois, l'extension Starfield, enfin des jeux qui sont sortis cette année, qui se sont vus reprocher de pas être assez RPG et tout, alors que voilà, c'était une étiquette qu'on anticipait quelque part, quoi.
Exactement. Les genres sont aussi un souci qui existe dans le cinéma. Un exemple que j'évoque souvent, c'est le genre du cinéma d'animation, qui est, je trouve, une appellation aberrante. L'animation n'est pas un genre, il y a des films d'animation d'horreur, de comédie, d'action, de tout. Mais l'usage fait que ça reste. Autre problème, toujours avec l'animation, un film comme Avatar de James Cameron, un film qui est fait à 95% d'animation numérique, de tout type. Et du coup, Nico, Avatar, c'est quoi? Est-ce que c'est un film genre d'animation animée réaliste? C'est que ça commence à devenir compliqué.
Ouais.
Alors, je vais sortir les violons et les grands mots en disant que ces catégories de jeux, ces genres, ils sont dangereux. Tout simplement car les genres cloisonnent le raisonnement. Quand on pense à un jeu, on s'oblige à le faire rentrer dans une case. Heureusement, les genres ne freinent pas la création des développeurs. Heureusement. Mais ils peuvent limiter la compréhension des jeux. Pour certains, FF16 n'est pas un RPG, donc c'est pas bien. Oui, le jeu est peut-être décevant, mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas intéressant que FF16 questionne son genre désigné, qu'il s'en extrait ? Naoki Yoshida, le producteur de FF16, a été vexé qu'on puisse désigner son jeu de JRPG. Il a trouvé ça péjoratif. Alors, il a pas du tout conscience qu'en Occident, c'est plutôt quelque chose d'honorifique. Il a pas anticipé aussi qu'on allait justement dire le contraire de son jeu, que c'était pas un JRPG. C'était une déclaration à la sortie. Néanmoins, je peux comprendre qu'il ait trouvé ça péjoratif, parce que son défi à lui, en tant que créatif, c'est de faire avancer la licence Final Fantasy, de la faire évoluer, de la faire se transformer. Et ça peut être vexant pour Yoshida de voir ranger son jeu, son nouveau jeu, dans un genre qui sonne comme un écho du passé. On l'a vu dans un précédent Red Alert, le 111, il est impossible de désigner ce qu'est un Final Fantasy. Et donc, cloisonner un FF à un genre, je pense, c'est aussi problématique. La saga a toujours évolué, mouvante, elle se transforme à chaque épisode. Il faut peut-être accepter du coup que le 16e épisode a passé un cap dans cette mutation de la saga. C'est une mutation néanmoins qui peut vous plaire ou pas, ce n'est pas la question en l'occurrence. La problématique des genres n'est pas propre aux jeux vidéo, on l'a vu. C'est le cas du cinéma, mais c'est aussi le cas de la musique, avec le métal, le rap, l'électro. Hein, y a des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Et dans ces genres musicaux, les appellations se multiplient, s'affinent, se spécialisent. C'est une bonne chose, je trouve, parce que c'est la preuve d'une bonne vitalité du média, qui évolue et qui a besoin de nouvelles nomenclatures pour être observée. Dans le jeu vidéo, il y a la création de nouveaux termes, mais c'est un petit peu plus rare. Il y a le knowledge vania, par exemple, qui est assez récent, mais il y a toujours ce rapport, je trouve, au passé, ce vania qui vient de Castlevania, de Metroidvania. Mais bon, pourquoi pas? Ce qui est problématique dans le jeu vidéo, c'est que plutôt que d'affiner ces genres, on en invente de nouveaux, encore plus abstraits, avec des noms encore plus vagues que les genres déjà établis. Mon champion, mon chouchou, c'est le character action, qui je sais pas ce que c'est. Vraiment, la vérité, je ne peux pas vous décrire ce que c'est.
Je suis au même stade que toi.
J'ai fait des recherches wiki, tout. J'ai vu des tops de character action. Ça passe
c'est un
de...
jeu d'action avec un personnage où tu contrôles un personnage.
C'est beau.
Ça me
dit j'aime beaucoup cette... Attends, un jeu d'action avec...
Mais c'est marrant parce que le Metroidvania aussi, ils ont inventé une sorte de variante qui s'appelle le Metroid Brainia. C'est où tu dois ça conditionne un peu ton côté, voilà, il faut faire fonctionner tes neurones, machin, réfléchir.
On en parlera peut-être tout à l'heure, mais le nouveau terme là qui est dans ce genre là, c'est le brain. Mais pourquoi ce Metroid et ce Vania qui en fait, on est en train de préciser quelque chose et en même temps de perdre en fait le sens de ce nouveau genre émergent. Mais bon, il y a pire parce que depuis quelques années, il y a le genre du jeu indé qui est apparu, qui est un véritable non-sens, car absolument personne sur cette terre n'a une réponse à ce qu'est un jeu, nous compris. Dans le Red Alert 21, on a tenté. Après, c'est notre proposition. Qu'est-ce que tu entends, toi, par un jeu indé? Question à 2 millions d'euros. Non, qu'est-ce que tu penses de l'appellation jeu indé?
Bon, on l'a dit aussi, pour les Game Awards, ça n'a plus de sens, parce que est-ce qu'on tu conditionnes le côté indépendant financièrement? Est-ce que tu conditionnes le côté petit budget, petite équipe? Est-ce que tu conditionnes une équipe, justement, qui peut aller pousser ses mécaniques parce qu'elle a moins de pression qu'un triple A?
Ça peut même parler d'imagerie. Il y a une imagerie indé, un pixel art. Ouais. Celle-là, c'est... Alors, il y a le caractère action, je l'aime beaucoup, mais le jeu indé dans le genre illustration de la chronique, il est quand même pas mal. Il y a aussi les éditeurs japonais, notamment Capcom, hein, qui aiment bien affiner les genres depuis toujours, Bah, par exemple, Survival Horror, ça vient du marketing de Resident Evil. Bayonetta, c'était un stylish action game. Ils inventent toujours des trucs, et parfois, ça marche. Survival Horror, par exemple, c'est resté. On l'utilise même au cinéma. Donc, je trouve vraiment que ça, c'était resté dans les années, c'était nouveau à l'époque, et je trouve ça efficace. Mais dans le jeu vidéo, bah, on fait le plus souvent le chemin inverse. On essaye de faire rentrer de force un jeu dans un genre qui ne lui convient pas. Et je trouverais plus sain de voir émerger d'autres formes d'appellation, bah d'aller vers l'avant plutôt que de regarder en arrière en essayant de contraindre bon gré mal gré les nouvelles propositions de jeu dans des termes du passé. Mais est-ce vraiment une solution ? À trop complexifier les genres, on pourrait se perdre et rendre encore plus abscons notre propos. Du coup, je crois qu'on a un tournant, un moment dans lequel nous avons une nomenclature des genres trop limitée pour des jeux aux concepts toujours plus originaux, des jeux qui nécessiteraient de nouveaux termes pour les désigner. Par exemple, Death Stranding, c'est quoi ? Moi, je suis chaud pour un atmosphérique walking simulation, pas simulator, tu vois. Un peu le PNL du jeu vidéo, parce que dans la rap, tu vois, il y a les atmosphères, enfin, tu vois, les trucs atmosphériques et tout. Et je trouve que Death Stranding, bah, je sais pas, ça marche.
Ça ferait un bon clip, là, PNL en cas, Islande, là. Mais même, d'ailleurs, Kojima avait déposé pas mal de brevets sur son Link System, je sais pas quoi, là. Et même, là, pour Audi, apparemment, il y a déjà des brevets qui ont été déposés aussi pour promouvoir un peu un nouveau genre de jeu, quoi.
En tout cas, il faut déposer à l'INPI. C'est ça qui est important, déposer le nom. Mais peut-être qu'on va reprendre dans le jeu vidéo une mode un petit peu passée des noms de genre en like. Je sais pas si ça vous parle, mais fut un temps, comme on ne savait pas comment nommer les jeux qui reprenaient un nouveau gameplay à la mode, ben, on les appelait par le nom du jeu qui avait popularisé le concept, plus un like. Par exemple, le Doom-like, le Quake-like, le GTA-like. Par exemple, est-ce que les répliques de Vampire Survivor, c'est dur à dire, vont être des Vampire Survivor-like ? J'espère pas, parce que c'est vraiment chiant à dire. Peut-être, mais en tout cas, il faut se le dire, c'est un nouveau genre, hein, le Vampire Survivor. Il y a aussi les Battle Royale. Alors ça, c'est le cas parfait d'un nouveau genre de jeu, mais avec une bonne appellation, je trouve. Sauf que ça sent un peu le cas qui confirme la règle, parce que les Battle Royale, les BR, hein, sont nés d'un concept d'un roman, puis d'un film du même nom. Donc il existait une antériorité au genre, avant même son intégration au jeu vidéo, donc une compréhension un petit peu symbolique de ce qu'était le BR.
Oui, bon, après c'est vrai que t'as le BR, ça reste aussi un truc dans le catch, tu vois, où c'était un mode où il se mettait sur la gueule à plusieurs, quoi.
Exactement, donc c'est aussi popularisé par une autre forme, donc le catch, la littérature, le cinéma, on l'a repris au jeu vidéo. Là, on est sur quand même, je trouve, un cas parfait, mais il y a beaucoup d'astres alignés, je suis pas sûr que ça va se reproduire. Et dernier argument, surtout, hein, le représentant des BR, c'est Fortnite, le plus gros phénomène de ces dernières années. Et c'est quand même pratique, je trouve, pour imposer un genre. D'ailleurs, influencer l'industrie entière, je crois que c'est le prérequis pour avoir son genre en like. Parce que, est-ce que vous connaissez les Souls-like? Donc voilà, c'est vrai que je suis sur une conclusion, on va dire, ouverte. Je vous laisse me dire, Nico, je me tourne vers toi aussi.
Bah, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, quoi. Mais c'est marrant.
Merci.
Non, mais dans le...
C'est un peu un état des lieux, un statu quo. Je sais pas si aller plus vers la précision de l'appellation des genres, c'est une solution. Inventer des nouveaux normes, c'est une solution, c'est pas évident.
En tout cas, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien les périodes de transition tu vois que les gens cherchent quelque chose et avant qu'il y ait un mot qui reste, tu vois. Tu parlais Souls-like, après c'est devenu les Soulsborne-like, maintenant on parle de Soulsborne tout court. Mais Soulsborne, c'est quand même un mix de deux jeux de From Software, enfin. Et ce qui, je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est le delta qu'il y a, tu vois, entre la musique où c'est hyper cloisonné et t'as des gens qui disent, moi j'écoute que du rap, moi j'écoute que du rock, moi j'écoute que de l'électro. Personne sera choqué, en fait.
Non. Et au sein même, attends, je vais même plus loin, peut-être. C'est au sein même du rock ou du rap, il y en a, ils vont dire non, mais moi j'écoute que de la trap.
Ouais.
Et il y a aucun souci.
Et dans le cinéma, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu, où tu dis pas, ah tiens, le nouveau drame de Scorsese. T'as le côté, bon, c'est une comédie, c'est un film d'horreur, ou c'est autre chose, tu vois, t'as ce côté vraiment très très général, quoi. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu moins, tiens, tu dis pas, je vais aller voir le dernier film d'aventure au cinéma, tu vois.
Non, pas du tout.
Ou t'es pas fan de films d'aventure, peut-être, ou, enfin, même si pour l'horreur, ça peut se comprendre aussi, enfin.
Dans le cinéma, on l'a vu, dans les cérémonies, il n'y a pas trop des distinctions par genre. Et très récemment, c'était pour les Golden. Alors,
c'est les Golden Globe où t'as la distinction drama et comédie. Ouais.
Où tu te retrouves avec une série que j'aime bien qui s'appelle The Bear, qui est en comédie parce que de facto, tu rigoles un peu.
Il peut y avoir de l'humour, mais c'est pas du tout une comédie. Quoi.
Mais il y a aussi la comédie dramatique. Alors là, ça, on s'est vraiment pas fait chier. On s'est dit, on va prendre les deux deltas du prisme de l'émotion. Donc, est-ce que dans le jeu vidéo, on va faire un walking simulator beat them up, tu vois, un moment où tu marches et tu t'excites en même temps.
Ouais. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est, comme tu l'as dit, c'est que c'est contre-productif et que surtout, enfin, on parle de vision et d'approche artistique, quoi. Le mec, il se dit pas, ah, tiens, je vais aller faire un machin, machin, machin. C'est plus, j'ai une idée de jeu, de concept et faut pas que lui s'enferme et que le public l'enferme aussi à son tour. Et après, voilà, c'est aussi le côté, quand tu dois pitcher un jeu, tu l'as dit à ton public ou à ton éditeur, t'es obligé de le faire entrer dans des cases pour que les mecs comprennent, quoi.
C'est ce que je nommais l'usage, c'est ce qui est le plus important. Et par exemple, il y a eu un débat il y a quelques années un petit peu sur même l'utilisation du mot jeu vidéo. Est-ce que le jeu vidéo était un problème? Soit on a complètement arrêté d'en parler, c'est devenu ancré, mais il y avait des gens qui se questionnaient sur mais non, jeu vidéo, il y a trop l'ancrage du jeu dedans, et donc c'est l'usage qui a gagné. Ça y est, le jeu vidéo c'est foutu, tu vois.
Oui et non, c'est que on parle beaucoup de gaming aussi maintenant, même en France.
Ouais, mais le ça, gaming, c'est un autre, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un autre problème d'usage, c'est tout ce qui est anglicisme.
Donc, ouais, mais tu perds déjà une notion là, dans jeu vidéo, tu perds la notion un peu vidéo quoi, dans le gaming.
Oui, mais tu gardes la notion jeu,
la c'est notion si qui posait le plus
souci, si tu sais pas parler anglais quoi. En tout cas, dans les exemples de précision dans les gameplay, il y a un jeu qui est dans le top de Shambhala, hein, qu'on salue, qui s'appelle AKR, hein, donc le jeu de l'époque, un peu Jeff Minter, hein, c'est exactement le cas, et c'est un arcade wave shooter, et je trouve ça intéressant, tu vois. Moi je suis plus, si je devais donner mon avis, je serais plus pro affinons, tu vois, affinons, essayons de trouver des choses.
Ouais, mais à la Capcom quoi, inventons un genre par jeu presque.
Inventons. Et après, mais c'est souvent ça, l'exemple de PNL, le atmosphérique, tout ça, ça a été entre guillemets une révolution, en tout cas une révolution populaire, et puis ça a fait naître un genre.
Le cloud rap.
Le cloud rap, exactement. Et tu vois, c'est devenu un délire.
Ouais, mais on tombe après, alors dans le côté absurde, tu vois, du métal où il y a 25 sous machin en fonction du rythme.
C'est lui qui l'a dit, hein, sur le métal.
Non, non. Je sais que c'est un gros délire. Chez les fans de métal, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et les mecs, c'est vraiment les guerres de chapelle entre oh, moi j'écoute du Death Underground, machin. Enfin.
Oui. Mais bon, c'est un problème partout, hein. Que ça soit, regarde, dans l'art, on en parlait, l'art ou même la musique, un petit peu des hautes sphères. T'as l'art contemporain, l'art moderne, mais t'as la musique savante et tout. Est-ce que c'est pas plus intéressant des fois de peut-être taper juste en disant, ben là, nous, ce qu'on fait, c'est de l'expérimental, c'est tatati.
De manière générale, je trouve qu'on accorde trop d'attention là-dessus. Quoi.
Et t'as absolument raison, et c'est pour ça que je me suis servi de FF16 comme tremplin à cette chronique et à cette réflexion, parce que FF16, il a ses défauts, il est pas parfait, que vous l'aimiez ou pas, comme je l'ai dit, c'est pas tant la question, c'est que je pense qu'il faut faire attention au jugement qu'on peut porter à cause d'un genre peut-être qui lui a été désigné.
Ouais.
Et c'est dommage.
Moi, j'ai vu des gens lui reprocher d'être RPG, mais tu sentais alors je vais dire de la haine, c'est fort, mais vraiment, c'était quelque chose, ah, c'est même pas un RPG, enfin.
Et plus le temps passe.
Fout,
oui, on s'en fout complet. Et plus le temps passe, moi, FF16, j'ai des griefs, mais je l'ai quand même assez apprécié. Et plus le temps passe, et plus j'y pense, et plus je trouve qu'il cristallise plein de choses de notre époque, là, vraiment, de ces quelques mois, quelques années, des problématiques, on l'a vu, d'appellation, de genre, d'évolution, au sein même d'une saga. Je le trouve plein de défauts, mais je le trouve passionnant à observer, et je pense vraiment qu'il va gagner peut-être pas en estime au niveau du gameplay, du game design, mais l'aura
réhabilité avec le temps,
je pense, parce qu'il est vraiment il est marqueur d'un temps très précis. Et peut-être que, et ça c'est ce que j'essaie de dire moi dans la chronique, c'est qu'est-ce qu'un Final Fantasy, peut-être que il a raison sur son regard que le jeu porte sur l'avenir. Et en fait, nous, on est trop ancré dans notre présent, on est peut-être même trop ancré dans notre passé à vouloir faire rentrer ce jeu dans des genres qui sont pas délétères, mais qui ont un certain temps, alors que ce jeu, Yoshida et compagnie, ce qu'ils veulent, c'est aller vers l'avant.
Regarde FF13 qui a eu droit à une sorte de réhabilitation plus de 10 ans après sa sortie. Bon, on verra si FF15 sera la même dans quelques années, et après FF16.
Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du DLC de FF16, et qu'est-ce que vous pensez de ces nomenclatures de genre de jeux vidéo? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça nous conditionne notre réflexion? Est-ce qu'il faut s'en foutre? Je crois qu'on est tous d'accord pour ça. En tout cas, ce qu'on se fout pas, c'est le top 3 interlude.
Non,
on s'en fout pas du tout, parce qu'il y a des gens qui ont même sauté, ils sont là, salut.
Bonjour,
on vient de parler d'un sujet extrêmement sérieux, et là vous arrivez à ce top 3. Top 3, qui nous a été proposé par Boris, qu'on salue, c'est Drucker, c'est aujourd'hui. C'est
salut tout le monde.
Vivant dimanche, on salue absolument. C'est la fin de l'année. C'est,
oui, voilà.
C'est Noël, c'est l'amour. Donc un top 3 des souvenirs de l'E3. Donc un E3 qui se meurt, mais on se garde ce sujet pour la semaine prochaine. On va faire un gros bilan Red Alert, dernier Red Alert de l'année, bilan complet de l'année.
Il sera peut-être pas diffusé la semaine prochaine.
Et qui sera peut-être pas diffusé la semaine prochaine.
On est en cours de réflexion.
Oui, tu as raison.
L'idée, c'est que vous ayez toujours un podcast par semaine.
Il y aura un bilan, et donc là, il va y avoir un bilan à faire sur ces cérémonies, sur un Geoff Keighley qui prend toujours plus de place, un E3 qui se meurt. Et donc voilà, Boris nous a proposé, faites-nous un top 3 des souvenirs de l'E3.
C'est parti. Mes souvenirs de l'E3, moi j'ai pris ça très premier degré.
Vas-y,
mon rapport
tu as bien raison.
Donc mon numéro 3, ça commence, c'est l'époque où on a pu pour la première fois suivre en fait les confs en live sur internet, parce que le 3 nous quand on l'a connu, ben c'était quelque chose qu'on vivait dans les magazines et par procuration un mois ou deux mois après l'événement, ce qui aujourd'hui n'est plus entendable. Et aujourd'hui ça paraît naturel de lancer YouTube ou Twitch pour suivre ta conf en direct. Nous on a connu l'époque de l'entre-deux où ça commence à arriver, mais c'était sur des liens qu'il fallait creuser de ouf pour les avoir, la connexion pétait toutes les 10 secondes, c'était vraiment la galère.
Ouais.
Et le fait d'avoir pu commencer à découvrir ces confs en direct, pour moi, ça a été une révolution, quoi. On est passé vite d'un extrême à l'autre, mais faut se rendre compte quand même d'où on part, quoi.
Alors, quand tu dis en direct, petite précision, c'est pas du tout les confs en direct. En direct, c'est qu'on avait un fil d'actu de news toute la journée.
Non, même la conf que tu suis en
ça,
vidéo,
après.
En fait, c'est arrivé après.
Ça, c'est arrivé bien après.
Je me rappelle des premières conf vidéo où tu voyais un bout de la conf, le lien pété, et tout le monde sur le forum disait, ah, vite, faut trouver un autre lien.
Ah
et
ouais.
Tout,
voilà. Ça, c'était ouf. Moi, je veux juste un peu repartir en arrière. C'est les premières fois où on a pu suivre sur Internet en direct, donc toute la journée, à l'époque où on payait Internet à la minute. Moi, rappelle-toi, même chez mes parents, moi, j'avais mis l'ordi dans le salon. La seule fois de ma life où l'ordi était dans le salon, parce que je sais plus pourquoi. Et en fait, on passait notre journée à scroller et à faire des F5, recharger la page sur jeuxvideo.com, Gamekult et compagnie, justement pour voir la news qui allait tomber, parce qu'on savait pas ce qui allait tomber.
T'avais le suivi minute par minute, quoi.
Et tu parlais de la presse, toi t'es fan de Console Plus, est-ce que c'était ce numéro Guerre des Consoles qui en plus faisait un gros E3?
Je crois pas. C'était le numéro Guerre des Consoles, c'est celui d'été où il y avait pas trop justement d'actu, quoi.
Donc on attendait fin août pour avoir...
Non, mais le 3 à l'époque était en mai, je crois, et donc c'était le numéro du juin souvent qui sortait là-dessus.
Ok. Une autre époque. Mais qu'il est bon aussi de se rappeler. Alors moi, je suis un peu plus dans la modernité, on va dire. Je vais vous parler du reveal de God of War, donc le reboot qui était en 2016. Et c'est un moment fort parce que on le savait pas encore, mais on était en passe de... c'est fini ces conférences en live avec des grands événements et tout. Et là, donc, on a un orchestre avec Bear McCreary qui dirige l'orchestre. On a Cory Barlog qui est manette en main, qui joue. Et en fait, on ne connaît rien, ni de la musique, ni du jeu qui est en face de nous. On savait pas qu'il allait avoir ça. Et en fait, on se prend tout ça dans la gueule avec cet avantage du live, ce stress de Cory Barlog. Est-ce qu'il va se planter? On l'a su bien après parce qu'il y a un reportage qu'on vous a de nombreuses fois conseillé qui est dispo sur YouTube où en fait, il s'était vraiment chié dessus, quoi. Il avait ultra peur.
Ouais.
L'orchestre qui devait être en raccord avec le jeu. Et là, c'est l'une des rares fois, l'une des dernières fois où en fait, j'ai pris cette vague d'événements, tu vois, c'était un événement.
Ouais, puis t'avais la mise en scène qui était cool, où tu voyais la cabane, tu rentres à la cabane, tu vois un perso, ça se retourne, bam, c'est Kratos. Enfin oui, c'est pour ça qu'on aimait le 3 aussi, pour ce genre de moments, et qui effectivement sont devenus bien rares depuis, quoi.
Il y a eu le dernier souffle d'événementiel fait par Sony, qui était 2 ans plus tard, en 2018, où il y avait cette scénographie avec Last of Us, Tsushima, et les journalistes, en fait, se balader comme ça, d'univers en univers, mais c'était vraiment... le dernier soubresaut, parce que la conférence en elle-même, elle était faite à partir d'un comptoir où t'avais 3 personnes et t'envoyais les journalistes qui naviguaient. Il y avait plus de vraies scènes. Il y avait de la scénographie, mais pas la grande scène où les gens, en fait, passaient les uns après les autres. C'était, une année avant que Sony dise en 2019, stop, c'est fini, on a tout donné, nous, on en a marre, tu vois, d'investir, tu vois, dans de la scénographie, là où, on va remarquer et on va tous s'établir sur, on peut faire chacun nos confs, et peut-être pas en direct, et peut-être 100% en numérique.
Ouais, et c'est justement mon top 2 qui est lié à ça, c'est que justement avec ces confs enregistrés et tout, on perdait ce côté événement live où tout peut arriver, et mon souvenir numéro 2, c'est Keanu Reeves, présentation de Cyberpunk en 2019. Alors quoi qu'on pense du jeu, quoi qu'on pense de Keanu Reeves, c'est un moment en fait qui a cristallisé toute la carrière de l'acteur et du genre lui-même, le fameux You're Breathtaking, tout ça. Et c'est un moment, voilà, qui était pas scripté, qui arrive parce que t'es en direct devant des gens et tout. Et c'était ça, en fait, le 3, c'était ça qui était cool, quoi. Alors, ça peut être aussi des événements qui arrivent et qui sont péjoratifs, hein, qui vont jouer contre. On se rappelle, je crois, de FF15, où il y a eu un développeur qui faisait le combat contre le Titan et qui s'est complètement loupé, ou
Miyamoto et Skyward
Sword, la Wiimote qui marchait plus. Ça, c'est des trucs, c'est des galères de ouf.
Et on s'en souvient.
Mais des fois, t'as ces trucs où, voilà, la magie opère, on va dire, quoi.
Je t'emboîte le pas avec mon top 2 et on va en 2017 avec Ubisoft et Miyamoto, qui fait l'éloge de Mario et Lapin Crétin premier de nom et qui fait pleurer David Soliani, creative director du jeu, qui fond littéralement en larmes. Alors on a pu croire des fois dans des événements, encore une fois Cory Barlog qui s'est par la suite, après l'accueil critique, c'était le premier ou le second qui chialait dans la vidéo?
Premier, je crois.
C'était après le premier où on a pu dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Là, à l'E3, à Ubisoft, quand ils pleurent, c'est 100%
vrai. Ouais. On a un œil qui est très cynique aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a tendance à tout remettre en question. Et je t'avoue, j'étais à deux doigts de le mettre dans mon top aussi, parce que je trouve que c'est un beau moment.
Moi, c'est quasi mon top 1. C'est juste qu'on a, je crois, un top 1 commun.
Bah, déjà, il y avait eu Miyamoto et Yves Guillemot qui faisaient la petite pose avec les guns, là, et tout, pour une photo super stylée. Effectivement, le créateur, voilà, qui, c'est son rêve, fan de jeux Nintendo et Miyamoto, qui voit Miyamoto présenter son jeu, qui est dans lequel il a mis tant d'efforts.
Donc, on est quand même sur du Ubisoft Milan, donc, un occidental qui a pour charge de faire un jeu Mario. Enfin, la pression est ouf. Le mec est complètement fan de Nintendo, bah, fan de jeux vidéo. Et là, t'as Miyamoto qui lui dit, bah, qui fait l'éloge de son jeu.
Qui lui rend hommage. Et d'ailleurs, David Soliani.
David.
Il avait un t-shirt Nintendo, je crois, pour l'event.
Vraiment, là, c'est ça pourrait être du top 1, mais je crois qu'on a un top 1 peut-être un peu plus commun.
Ouais, alors, t'es un peu égoïste, ah, pardonnez-nous, ouais. Surtout qu'on en parle assez souvent, finalement. C'est qu'on a eu la chance, tous les deux, de faire un E3, en fait. Donc, le 3 de 2013, on s'est rendu sur place, on a pu découvrir le salon, participer à des conférences, et c'est un souvenir que je chéris de ouf, et maintenant, d'autant plus que le 3 est mort, je me dis, putain, on a eu la chance, on a pu, c'était vraiment un truc à cocher dans notre life,
ouais, de faire exactement. Ça. Exactement. En tout cas, si vous êtes curieux, sachez que on vous raconte tout cet E3, on vous raconte, allez, presque tout. Dans le Red Alert numéro 30. Tout ce qu'on peut raconter. Il y a évidemment des choses qu'on vous raconte pas. Mais je sais pas, des trucs tout bêtes. Par exemple, l'E3, c'est le rêve de gosse, le salon gigantesque et tout. Si vous êtes déjà allé à Japan Expo, sachez que c'est quoi, 5 fois, 6 fois plus grand, enfin, je sais même 10 fois plus grand. C'est tout petit, l'E3, c'est 2 halls, c'est...
Ça peut décevoir, hein, quand
tu arrives. Ça peut décevoir.
Sachez, moi, j'ai fait un E3 en ayant perdu ma carte d'accès, quoi, avant le premier jour.
Voilà.
Et ça, c'est beau.
Les conférences, le fait qu'on ait pu voir toutes les conférences, mais on n'était pas forcément accrédité à toutes les conférences, donc on a dû jouer des coudes, des amis qui nous ont aidés.
Il y avait le mythe aussi des confs avec le son à fond, qu'on a bien connu aussi.
Oui, ça, c'est la conf Electronic Arts, même. Où il se passe des trucs dans cette conf, il y a des guests, il y a plein de trucs. Red Alert numéro 30, si vous êtes curieux pour en savoir plus.
Et juste un truc, si vous êtes nostalgique justement de l'E3 et de cette période de conf, il y a la chaîne NoClip, une chaîne qui fait des documentaires qui sont plutôt cool. Ils ont une variante de chaîne qui s'appelle NoClip Game History Archive et qui, en fait, ils retravaillent les vidéos des confs pour les proposer en haute qualité.
Sérieux?
Alors, il n'y a pas encore tout pour l'instant. Alors, j'ai pas creusé pour savoir jusqu'où ça va et tout. Mais tu peux trop mater des confs de vieilles E3 en qualité 4K de ouf et tout. C'est trop bien.
Oh, je suis trop chaud. J'aimerais bien savoir si en fait on en fait des caisses et aujourd'hui on est beaucoup trop exigeant et que finalement à l'époque c'était pas si ouf que ça. Nous, on se rappelle quand tu évoquais tout à l'heure quand on a pu commencer à vivre les conférences, c'était des conférences qui étaient extrêmement chiffrées, économiques et chiantes et pénibles. Donc les confs aujourd'hui étaient 100 000 fois mieux que celles-là. Est-ce que là il y a les confs genre le Miyamoto bouclier allié?
Je crois qu'elle y est. Ouais.
Ah ouais, je suis trop chaud juste savoir si est-ce que c'était si bien ou est-ce que j'ai envie de le parce que j'ai pas envie de le savoir.
Non, mais c'est vrai que les confs se sont transformés quand les joueurs ont eu accès à ça pour en devenir des shows en fait. Ou à la base c'était quelque chose de commercial, de business. Et c'est vrai que t'avais des graphiques et des tout. Les mecs montraient des graphiques, d'évolution de chiffre d'affaires et tout quoi. C'était.
On reviendra sur l'E3, la mort de l'E3 dans ce Red Alert bilan qui est pour bientôt. Prochainement, en tout cas, sachez, on vous laisse pas tomber. Si c'est pas un Red Alert, ça sera un sœur d'émission. Si c'est pas un sœur d'émission, ça sera un sœur strike. Toutes les semaines pendant les vacances et jusqu'à la fin de l'année et même l'année prochaine, il y aura une émission pour vos oreilles. Nico, c'est à toi. On va continuer le voyage et on va s'envoler très très loin sur Pandora.
Sur Pandora, la lointaine Pandora. Donc, on va parler d'Avatar Frontiers of Pandora. Tu l'as dit, hein, le dernier triple A de l'année. Hein. Alors, faut savoir, moi, j'aime bien les films Avatar, mais c'est pas un univers non plus qui me passionne.
Comme toi.
Mais j'attendais quand même le jeu avec curiosité. Alors, déjà, je trouvais ça cool de confier le projet à Massive, hein, donc le studio Ubisoft qu'on connaît plutôt pour les jeux The Division. Ça permettait, je pense, hein, d'apporter un petit œil neuf. C'est vrai qu'on a l'habitude que ce soit Ubi Montréal hein, qui charbonne à sortir débité du monde ouvert en chaîne depuis 15 ans. Là, je trouvais ça cool déjà d'opérer ce petit changement.
Massive, moi, je les appelle les Insomniacs de chez Ubisoft parce que Insomniac, donc studio de Sony qui débite des jeux tous les ans et demi, là, ils sont au charbon au four et au moulin.
Il y aura le Star Wars Outlaws ils sont dessus, quoi.
Ouais.
Donc, on pouvait au moins espérer un petit renouvellement, tu vois, dans la formule Ubisoft du monde ouvert. C'est vrai qu'il était devenu un peu une formule tellement cadenassée que ça devenait presque une punchline, quoi. Et on va voir que c'est le cas et que ce n'est pas le cas en même temps. Donc, ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, on incarne ici un avis.
Ouais.
Donc, c'est perso tout bleu hein, qu'on connaît. En parallèle des intrigues d'Avatar 1 et 2. Alors, je vous dis pas pourquoi, mais c'est vraiment en parallèle des deux. Et on va parcourir cette planète Pandora. afin un petit peu de lever le mystère sur nos origines et aussi voilà de se reconnecter parce qu'on incarne un Navi qui avait été kidnappé par des humains et donc éduqué par des humains et on devoir un peu revenir un peu sur ses origines et voilà parcourir la planète pour reconnecter avec 3 tribus et voilà reprendre un peu notre place dans l'écosystème global de Pandora. Alors on lance la partie et pour le coup je trouve ça commence très très mal hein, en fait. Avatar c'est un pur jeu Ubisoft mais dans tous les sens du terme donc qui va constamment souffler le chaud et le froid. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait ma petite chronique sur Assassin's Creed Mirage. Ouais. Je trouve que les 2 premières heures à la fois de Mirage et à la fois d'Avatar, c'est des purges. Okay. 2 heures d'introduction avant qu'apparaisse ce fameux écran titre du jeu que je trouve à chaque fois assez raté. Et là dès le début tu sens que niveau mise en scène, niveau dialogue, niveau intrigue, ça sera pas forcément les points forts de l'aventure. Et finalement, tu vas suivre une aventure, tu sens trop savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ou avec qui tu le fais. Ça, c'est vrai que ça pose souci. Toi, je sais que cette intro t'a posé un peu moins de soucis que pour moi.
Je l'ai trouvé, sur Assassin's Creed, peut-être moins pénible que toi, sur Avatar aussi. Mais c'est vrai que ce prologue, il est bien borné. T'as un début et une fin avec la fin du prologue où t'as le nom du jeu qui apparaît, que ce soit Assassin's Creed Mirage ou cet Avatar-là. Je crois que tu vas en parler et je vais pas aller trop vite en besogne, mais il y a une intention. Dans ce début d'Avatar, ils essayent vraiment de... Donc tu incarnes un Navi qui n'a jamais vu la forêt. Et donc ils essayent de faire monter la sauce en te disant, en te montrant et en te faisant vivre un lieu froid, clinique, militaire, pour que la révélation de cette forêt te soit aussi grandiose que le personnage que tu incarnes. Et ce prologue dans le prologue, je le trouve pas mal. Après, je trouve qu'ils se prennent les pieds dans le tapis jusqu'à la révélation du nom. C'est long, c'est poussif.
Oui, t'as toujours ce moment où on te fait un peu, voilà, on te montre un peu tous les composants du jeu. On essaie de t'initier à tout ça de manière pas très intéressante.
Sur Assassin's Creed Mirage, pareil, ce désir de nous mettre en scène au milieu de Alamut, donc le lieu originel des assassins, en tout cas d'Assassin 1, tout ça, le vieux de la montagne, tout ça, c'était extrêmement fort, extrêmement symbolique. Après, pareil, pied dans le tapis, peut-être un peu trop long. Et là où voilà, je veux pas aller trop vite en besogne, c'est que il y a une intention.
L'intention est bonne, ça je suis d'accord avec toi, c'est juste l'exécution qui pêche. Et d'ailleurs, j'ai vu ça hier, je trouvais ça rigolo parce qu'on en parlait. Il y a le New Game Plus qui arrive dans Assassin's Mirage, donc l'option New Game Plus, et tu peux zapper ce prologue.
Ok, ça arrive du coup en chameau. Là.
Ce qui pour moi me fait montrer que c'est peut-être un petit peu, voilà, on a peut-être un petit peu raison là-dessus, quoi. En tout cas, voilà, tu dis, on sent une intention et on sent aussi une ambition, notamment l'idée de proposer cette mise en scène immersive, c'est-à-dire qu'on ne quitte jamais la vue subjective de notre personnage et tu as toujours toute l'aventure qui est vécue du point de vue perso. Le problème, c'est que on a connu Cyberpunk entre-temps, hein, qui faisait aussi la même chose, mais qui te laissait aussi souvent le contrôle là-dessus. Et dans Avatar, il y a un gros souci, c'est que t'as une transition entre chaque séquence jouable et séquence cinématique. T'as un petit fondu au noir qui vient briser l'immersion, je trouve, et ça, je trouve ça super dérangeant. Il y a peut-être des problématiques techniques qui expliquent ça. Hein, je remets pas en question, mais j'ai trouvé ça super gênant en fait. Quoi.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, ce rapport à l'immersion sous FPS, t'as des exceptions. Tu vas nous en parler. C'est quand on a les des montures. Là, c'est la seule fois où t'es pas en la première personne. Et comme Cyberpunk, dans Cyberpunk, il y avait eu un problème avec les véhicules, les voitures, les motos, le fait que la conduite en version FPS n'était pas forcément. Elle était, moi, je trouve meilleure que hop ce retrait en troisième personne. J'ai l'impression qu'il y a aussi un parallèle avec ça, que quand ils ont fait le développement des montures, hop, t'as cette caméra qu'ils ont fait en sorte qu'elle se ressorte. Est-ce que c'était une bonne solution ou pas? Tu vas nous le dire.
Ouais, c'est vrai qu'on joue en FPS, et donc t'as quand même un outil de création de perso qui, je trouve, est toujours un peu superflu, vu que ton perso, tu le vois quasiment jamais. Mais là, voilà, avec c'est ce vrai, menu de création, tu découvres aussi l'interface et les menus du jeu, et qui sont, là aussi, je trouve, catastrophiques. C'est vraiment super moche, et même méga ringard, je trouve. Alors, bien sûr, l'idée de se mouler un peu dans l'esthétique des films, mais là, je trouve que c'est vraiment pas très réussi, quoi.
Non, je suis absolument d'accord. Et il y a un truc qui est vraiment ultra mal fait, mais je veux pas trop en dire.
On va en parler.
Mais je suis d'accord avec toi.
Donc, l'aventure, vraiment, va alterner, comme d'habitude, entre quête principale et quête annexe, hein, mais on ressent quand même une volonté de Massive de moins nous assaillir sous les milliards de points d'intérêt, de rendre ça un petit peu plus discret, un peu plus digeste. Après tout, on se situe quand même sur une planète exotique, hein, et on incarne une peuplade de chasseurs-cueilleurs amoureux de la nature, donc ça paraissait assez logique. Et dès le début, là aussi, comme dans Assassin's Creed Valhalla, cette fois à l'époque, on nous laisse le choix entre le mode guidé ou le mode exploration pour tout ce qui est l'interface et le côté interface de quête. Comme dans Valhalla, ça fonctionne pas vraiment, donc sachant que le mode exploration, grosso modo, au lieu de te pointer l'endroit où tu dois te rendre, on va te dire, rends-toi dans une forêt à droite de la cascade et derrière un feu de camp. Là-dessus, je trouve l'intention aussi est bonne, mais ça marche pas parce que, enfin, quitte à te donner des indications aussi précises, finalement, autant de marquer le point d'intérêt direct. C'est vrai que dans Zelda, par exemple, où t'as, hors les grandes quêtes, t'as des marqueurs sur la map, mais l'idée, c'est de, par l'observation, en fait, d'arriver à trouver les points d'intérêt toi-même. Mais là-dessus, je trouve que le game design, à la base, n'est tellement pas prévu pour ça dans Avatar, que je trouve que ce mode ne fonctionne pas, en fait.
Je suis entièrement d'accord. À l'usage, encore une fois, ça se voit, ça se sent que ça peut-être pas été pensé à la base comme ça. Au début, j'ai trouvé que l'intention, bah, comme ce prologue, elle était super bonne. L'impulsion, le désir de, bah, on va pas vous mettre un gros marqueur à suivre, et dans tous ces jeux où tu ne réfléchis absolument pas où tu vas et tu ne fais que suivre le point jaune qui t'est désigné, là, justement, ça, il faut réfléchir à ton environnement, ce qui te fait aussi observer cette planète qui tue, et donc, enfin, qui est jolie. Et elle peut te tuer, mais elle peut te tuer. Mais elle est magnifique. Sauf que, t'as l'impression, à force de jouer, que c'est que du maquillage. C'est que le game design en dessous, il est vraiment pensé et imaginé pour être joué avec des points très clairs de désignation d'objectifs. À la différence de, des deux grands exemples qui sont Breath of the Wild et Elden Ring, on va dire, ces deux jeux où, en fait, quand tu joues, t'as pas d'objectif. Et en fait... l'évolution dans chacun de ces deux jeux est naturelle, elle est organique. Ça n'a aucun intérêt d'aller d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, que ça soit dans Zelda ou Elden Ring. Alors que cet avatar-là ne se joue pas comme ça. Ouais. En fait, tu vas d'un point A à un point B.
C'est la philosophie de base qui est pas bonne et qui peut pas fonctionner comme ça. Donc moi, je vous conseille de jouer en guidé. Parce que, et encore, je trouve que ça reste assez discret la façon dont le point d'intérêt s'affiche uniquement quand t'actives ta vision un peu de chasseur, quoi. Et surtout qu'il faut pas compter sur la map pour nous aider, parce que la map, elle est super jolie, mais on capte rien, quoi.
C'est elle, le point. Ah non, mais vraiment, je la trouve vraiment très 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 jolie, mais je la trouve...
Pas pratique.
Une map, c'est pratique avant d'être...
C'est le but.
C'est le but. Ou, contre-exemple, Elden Ring. Où elle est purement symbolique, et en fait la map va t'inviter à explorer et en fait à ne pas te risquer à te fier à ta map. Et justement, fie-toi à ce que tu vois, à ton environnement, et là ça fonctionne pas.
Donc on a des combats qui vont se déclencher, évidemment, donc avec nos armes de Navi, des arcs et tout, mais on va trouver aussi vite une mitraillette. Et là aussi, ça pose souci, parce qu'on a une intelligence artificielle qui est vraiment nulle. Donc soit les mecs te repèrent pas quand tu repasses à côté, ou soit les mecs, ça devient des snipers dès qu'il y a l'arme déclenchée. Chaque soldat ne loupe aucune balle, en fait. Et il t'en faut très très peu pour arriver à te tuer.
C'est vrai que t'es fragile. Hein.
Donc ça arrive au début, c'est une galère, en fait, et tu te fais vite démonter. Surtout que je trouve, en termes de contrôle, c'est pas forcément toujours optimal, sachant que, par exemple, pour lancer une grenade, je trouve que c'est une galère sans nom. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur carré et puis sur le bouton L1. Sachant que le bouton L1 permet d'ouvrir la roue des armes et que si tu veux, par exemple, fabriquer des flèches, t'appuies sur L1 puis carré. Donc, en fonction de si tu te loupes, au lieu de fabriquer des flèches, tu peux lancer une grenade en te loupant.
Faut être énervé un peu.
Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi les inévitables phases d'enquête qui sont un petit peu nulles là-dessus. Donc, comme d'hab, tu repères des éléments avec ta vision de chasseur. Façon de repérer, c'est pas toujours très très bien mis en avant aussi.
Regrette la vision d'aigle, moi, parce que où t'appuyais et t'avais l'ensemble de ton environnement, là en fait t'as un réticule.
Ouais, on dirait que t'as la cataracte, c'est genre que tu vois, t'as un problème de vue.
On dirait que t'as un cil dans l'œil surtout. tu vois rien, tu vois flou, mais c'est peu pratique. Sur la phase d'infiltration, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que je les ai trouvés très sensibles, moi, ces militaires. C'est que t'en embêtes un, t'as l'ensemble
tout du, le camp qui
t'as le régiment entier qui t'a repéré.
Qui est au courant et qui sait où t'es.
Ils sont vraiment... faut pas les embêter, quoi.
Et du coup, ces enquêtes aussi, elles sont nulles, parce que tu dois relier deux trucs ensemble, et t'as le personnage qui va tirer des conclusions que toi, t'avais pas du tout imaginé une seule seconde. Et donc, j'avais peut-être mélangé l'ordre, mais effectivement, l'infiltration ne peut pas fonctionner, en fait.
Oui.
Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je bourrais, en fait. C'est-à-dire, t'arrives dans une usine, on te dit, tu dois actionner telle valve pour faire péter l'usine, et des fois, en fait, tu te fais flag, t'es sous le coup du feu ennemi, et moi, je bourrais pour aller direct à la valve, j'appuyais pendant la cinématique en espérant pas mourir. Et là, t'avais un truc un peu bizarre, c'est que si tu réussis, hop, fondu au noir, la base, il y a plus personne, plus d'ennemis qui sont là, et elle a été reconquise par la nature, comme s'il y avait...
Ça me rappelle Vercingétorix, moi. Tu te rappelles ce film?
Non, mais... Où ils font des batailles, en mode, t'as un fondu, la bataille est finie, quoi.
Il y a tout en flamme, t'arrives.
Et dans un jeu qui veut favoriser l'immersion, je trouve que là, c'est un truc qui est sort complètement du délire, quoi.
Bah, c'est pour la blague, je parle de Vercingétorix, mais d'un film, c'est que cette fondue au noir, en termes de mise en scène, elle veut dire quelque chose. Mmh. Donc, en fait, là, c'est sûrement un souci technique qui a fait qu'ils l'ont implémenté par la force des choses, mais visuellement, ça veut dire qu'il y a une rupture, ça veut dire quelque chose qui s'est coupé, qui a un temps indéterminé, qui a eu lieu, et qui, bah, fatalement, te coupe, quoi. Mmh.
Alors on continue avec les choses qui vont froisser, c'est ce côté encore une fois level, voilà, un peu RPG éventuellement comme ouais. tu le disais, où tu vas avoir des missions avec par exemple cette mission, faut être level 12 pour y aller, si t'es level 10 ça va être une galère parce que t'es en sous-niveau, c'est compliqué. Alors on te propose de faire évidemment des missions secondaires pour monter en niveau, mais elles sont pas très intéressantes. Moi dans les jeux en général, hein, tout ce qui est chasse, cueillette et tout, ça m'intéresse pas des masses, je l'avoue. Et moi ces jeux là ça me rend ouf en général, ces jeux qui où t'as envie de progresser dans la quête principale mais où on te met un stop. Ça, je trouve ça scandaleux, quoi. Ça me rend ouf.
Ouais, je suis d'accord. Que ça soit encore pour les annexes qui vont faire, c'est du. Alors, c'est pas le gatekeeping. Non, gatekeeping, c'est quand tu veux.
C'est que tu défends ton truc que t'aimes.
Je crois que c'est quelque chose qui s'appelle à peu près comme ça en level en game design. C'est quoi ? T'as des zones qui vont être vraiment à très très haut niveau, qui vont naturellement t'empêcher d'y aller, pour te dire, bah la quête principale, elle est pas trop par là. Mais comme quand ce que tu viens d'illustrer. T'es en train de continuer de poursuivre bah, ce que le jeu est en train de bah, te dire quoi. Il t'amène en plus gentiment vers là et on te dit bah non maintenant t'arrêtes, tu vas faire un petit peu de ouais frustrant. C'est un peu frustrant exactement.
Donc comme dans Assassin's Mirage, encore une fois, on n'est jamais trop impliqué dans l'aventure. T'accomplis les missions de manière mécanique sans trop comprendre ce que tu fais.
Oui.
Moi je me rappelle, j'ai une mission où j'ai dû à la fois actionner des leviers, tourner des valves, puis les détruire. Enfin, c'était vraiment ça confinait un petit peu à l'absurde. Et en fait, il y a tout qui te sort du jeu.
Et est-ce que tu réfléchissais du coup à ce que tu faisais ? Tu savais ?
Non, on te dit fais ci, fais ça, et tu le fais, tu sais même plus pourquoi, ni ouais. quel est le but de ta mission, quoi.
Donc on est à l'inverse, à l'opposé de leur désir de faire quelque chose qui est organique et naturel, avec ce qu'ils font sur les objectifs et le marqueur. C'est que quand, ça c'est typique des anciens jeux, enfin de tous les mondes ouverts, c'est que t'as ton marqueur, tu y vas, t'as un truc à faire, tu ne sais même pas ce que c'est, tu le termines et tu vas continuer ta quête principale. Mmh. Là, ils essayent de faire quelque chose où c'est censé être organique, où tu dois regarder autour de toi, t'arrives au lieu de que t'as trouvé, que t'as galéré à trouver, et là en fait t'es en train de faire quelque chose et tu m'expliques que finalement tu sais pas trop ce que t'es en train de
oui,
faire.
Oui, bon après t'as les persos qui disent ah ouais faut fermer la valve parce que l'usine comme ça, mais en fait c'est ouais. pas intéressant en fait, voilà, donc, ouais. c'est pour ça t'écoutes que d'une oreille quoi. Donc voilà, des premières heures un peu compliquées, et puis j'ai continué quand même à jouer, et il s'est passé quelque chose au bout de quelques heures. Donc déjà, t'obtiens le fusil à pompe, ce qui est plutôt cool parce que c'est l'arme la plus cheatée de la galaxie.
Okay.
Ça a la puissance d'un fusil à pompe x10 et ça a une portée, mais genre presque un fusil sniper.
Trop bien.
Et surtout, on te file bah, l'Ikran, cette fameuse monture volante que tu vas pouvoir bah, utiliser pour parcourir la map un peu plus vite. Et là, je trouve que le jeu prend une petite ampleur. Tu vas sortir du premier biome forêt un peu touffu, et c'est là où je trouve, pour moi, la magie a commencé à opérer. Donc les défauts, ils sont toujours là, il n'y a pas de souci, hein, je les ai cités, et il faut faire avec. Mais je trouve que quand on s'accroche et qu'on creuse, le jeu propose quand même quelques belles réussites.
Okay.
Niveau d'adaptation d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que Frontiers of Pandora, ça reste avant tout une adaptation d'une licence, et surtout d'un immense blockbuster du cinéma. On se rappelle aussi que le premier film a vu son adaptation par Ubisoft.
Oui, hein, c'est vrai.
Parce que les gens l'ont un peu oublié là-dessus. Mais je trouve que chez Massive, on s'est posé les bonnes questions et on a fait en sorte de respecter l'esprit du film et d'offrir une déclinaison de la licence plutôt cohérente. Donc les Navis, t'es des persos en pleine nature, on va te demander souvent de chasser, de cueillir des plantes, tout ça. La progression va quand même passer par une exploration des environnements avec ces espèces d'autoroutes végétales, donc c'est des gros troncs que tu peux prendre et qui vont un peu te permettre de passer d'un lieu à l'autre.
Des training.
T'as ces feuilles qui amortissent les chutes, hein, quand tu peux sauter d'une hauteur. Si tu passes sur les feuilles, comme dans le film, en fait, tu peux amortir ta chute. T'as ces cosses que si tu passes à côté, elles explosent, donc faut faire gaffe quand tu te balades. T'as des espèces de plantes qui vont servir de bumper pour sauter.
Donc, qui te boostent, même tes stats.
Qui te boostent la vitesse aussi. Donc t'as vraiment ce côté, il faut lire un peu ton écosystème pour progresser. Et tu vas acquérir ce savoir comme ton perso qui découvre ce monde. Et tu dis, ok, si je passe par là, j'irai plus vite. Et en plus, il y a la plante qui va me faire accélérer. Et puis là, j'aurai le bumper pour sauter. Donc t'as vraiment ce côté un peu actif. Alors tu parlais de Death Stranding pour la vanne des autoroutes, mais t'as aussi ce côté dans Death Stranding où t'analyser ton environnement pour optimiser ton trajet. Mmh. Alors c'est pas aussi poussé, mais je trouve qu'il y a un peu de ça quand même. Idem pour la fidélité du film, c'est que t'as ce propos écolo qui reste présent. C'était quelque chose qui était important dans les films, mais là je trouve que c'est parfois poussé un peu jusqu'à l'absurde, un côté un peu ridicule. C'est-à-dire que si t'arraches une plante, t'as un mini-jeu pour l'arracher de la bonne façon, comme ça elle va avoir des propriétés qui seront meilleures que si tu bourrines. Les animaux, pareil, si tu le butes avec la flèche et que tu remercies la nature de t'offrir ça, le loot aura plus de valeur que si tu le tues avec le gun. Je trouve que c'est presque un peu trop là.
Ah, moi, j'aime rigolo. Bien. Bon, c'est, voilà. Est-ce que moi j'aime bien parce que est-ce que ça va pas dans la direction de est-ce que ce jeu c'est pas une simulation totale de Navi quoi. C'est que est-ce que tu dois galérer. Tu le jaugerais à combien d'heures toi ce moment galère
du début. Pour moi ça a vraiment été 5-6 heures quand même. Donc c'est vraiment pas négligeable quoi.
Est-ce que c'est pas 5-6 heures à l'échelle de la vie d'un Navi?
La vie d'un avis.
Ou en fait t'es un bébé. C'est que t'es un bébé, tu connais pas ton environnement, tu sais pas te battre, c'est pénible, t'as peur, t'as froid, t'as tu vois en fait. Et il te faut 5-6 heures à l'échelle d'un humain où bah tu vas devenir un petit peu un guerrier.
C'est vrai, tu acquiers la conscience donc un Metroid Brainiac. Et t'as aussi des ruptures de ton un petit peu chelou. Alors là, j'en dis pas plus, mais à un moment, tu vas rencontrer un mec que t'as jamais vu. Ça va être le mec qui te fait des blagues, qui est un peu relou. Et puis, deux secondes après, il arrive un truc super tragique. Donc, t'es passé vraiment d'un extrême à l'autre de manière extrêmement rapide. C'est très, très, très bizarre. Et bon, vraiment, moi, ce qui m'a plu et ce que je retiens, c'est vraiment l'exploration et ce plaisir d'exploration. Donc, même si tes quêtes principales, t'as toujours ce marqueur de quête qu'il faut suivre, t'as quand même des moments, un peu à la Zelda, où tu dois observer l'environnement. Donc t'as certaines plantes que tu dois trouver qui vont te permettre d'acquérir des compétences ou d'augmenter ton niveau de vie. Et là, souvent, bah, tu vois que la plante, elle est cachée dans une espèce de structure rocheuse. Il va falloir que tu observes un peu pour trouver l'entrée d'une grotte. Dans cette grotte, t'as un cours d'eau, tu vas dessous par dessous pour trouver une autre entrée et arriver finalement à cette plante. Là, je trouve que c'est vraiment ce côté qui fonctionne. Et t'as surtout ce dépaysement. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que je valorise beaucoup dans les jeux, c'est quelque chose que je recherche. Et là, le terrain de jeu, je trouve, il est ouf. C'est-à-dire que le jeu, il est magnifique. Alors, pas tout le temps, parce que c'est toujours en fonction de la lumière. Ça me saoule un peu, même ces jeux aujourd'hui avec des gestions de lumière qui se veulent réalistes. C'est que t'as des moments où ça sera sublime et t'as des moments où ça sera tout plat, tout moche, comme dans Halo Infinite, je sais pas si tu te souviens.
Oui, oui.
Et là, je trouve, par exemple, la nuit où avec une luminosité réduite, le jeu est un peu quelconque. Mais quand c'est la bonne lumière et tout, c'est le plus beau jeu auquel j'ai joué aujourd'hui, je dois le dire. Je suis pas du genre à faire des captures d'écran à la toque. Là, j'en ai fait plein et tout. Donc vraiment.
Tu m'en as montré.
Et t'as ce vent qui souffle aussi. Je trouve la représentation du vent qui est incroyable, qu'on a rarement dans le jeu vidéo. Là, t'as vraiment cette sensation d'univers un peu palpable. Et aussi, t'as ce level design qui est très réussi, je trouve, parce que organique. Tu vois pas, comme dans Assassin, des fois, ah tiens, ils m'ont mis une poutre là pour me faire aller à ce chemin et tout. Je trouve que là, ils ont réussi à le rendre naturel et organique, où sans même t'en rendre compte, tu vas comprendre intuitivement les chemins où prendre, parce que t'as trois champignons qui vont te permettre de grimper. Enfin, je trouve que c'est très très bien fait, et tu te sens pas sorti du jeu par ce côté artificiel. Okay. Quoi.
Donc ils ont réussi à faire un level design qui est organique, et c'est la structure des quêtes qui fait artificiel finalement. Donc ils y sont presque.
Ouais. Et pour progresser, t'as ce côté mouvement et déplacement que je trouve très très dynamique et réussi. Moi, ça m'a même fait penser à du Mirror's Edge en fait.
Tu vas
pouvoir ta gestion des environnements qui sont très très péchus, on l'a dit. Si tu optimises bien ton trajet et que tu prends bien les bons sentiers avec les plantes et tout, tu vas pouvoir gagner en célérité, en vitesse, et t'acquiers une espèce de fluidité et un flow à la Mirror's Edge, quoi, vraiment. Et donc, je trouve que là, le jeu dépasse son statut d'open world classique, d'open world à la Ubisoft, ben, pour arriver à quelque chose de plus intéressant. Et je rajoute à ça que l'aventure a quand même un rythme un peu plus posé que ce qu'on, voilà, t'as pas une multiplication d'objets et de quêtes tout le temps.
On te
laisse avancer à ton rythme aussi. Et donc, ça, lié à la fidélité au film, je trouve que c'est finalement un bon jeu Avatar, en fait, dans ce que t'entends par rapport à la licence, quoi.
Ok. Bah, sauf quand t'as des personnages qui sont trop forts pour toi. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que, en fait, là, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a vraiment d'un des bonnes intentions. Finalement, une seconde partie du jeu où, bah, ça se concrétise. Comme si, eux aussi, ils avaient galéré, qu'il a fallu quelques heures, et après, hop, la magie, la magie a opéré, mais pas tout de suite.
Ouais, et je pense que c'est la conclusion qu'on peut apporter à ce jeu, et même à Ubisoft en général, c'est que tu sens qu'Ubisoft a fait des efforts. Ils ont pris en compte les critiques qu'on a pu leur faire, mais ils vont jamais au bout de leur démarche. Et il fait Avatar, ça fait partie de ces jeux chiants que t'as même pas envie de défendre, parce que c'est comme tu dis à un pote, mate cette série, mais faut passer les deux premières saisons qui sont relous. C'est le truc super chiant à dire, et enfin, là, ouais. Il m'a fallu 6 heures de jeu, avoir le fusil à pompe et le piaf pour vraiment commencer à prendre du plaisir. Je pense que c'est pas entendable pour beaucoup de joueurs, quoi.
Bah, disons que c'est une appréciation à condition, quoi. C'est que le jeu, il est trop bien, vous allez voir, mais c'est après 6 heures de jeu, il vous faut le pompe. Et tu vois,
sachant que tous les défauts ne sont pas résolus, c'est que tu fais avec, en fait. T'as cette contradiction constante entre volonté d'immersion, et t'as des moments où tu vas te faire spalmer tellement que t'as le petit moment un peu cringe, quoi. Donc, si vous réussissez à passer outre ces gros défauts, ben, moi, je trouve que c'est un jeu qui a des belles choses à proposer. Parce que moi, j'ai pris vraiment un plaisir à flâner, à vagabonder dans cet univers.
Ouais.
Mais je trouve que le constat reste quand même un peu amer, parce que vu la licence, vu le contexte et l'ambition qu'ils en auraient pu imaginer, ça aurait dû être cet Avatar, le Breath of the Wild d'Ubisoft.
Ouais.
C'était l'occasion rêvée. Dans un Assassin, dans un Division, t'as pas ces moments-là. On t'offre presque clé en main l'univers qui aurait dû se vivre comme dans un Breath of the Wild. Mais j'ai l'impression qu'Ubisoft, ils sont paralysés un peu par une peur de l'échec. Alors, économiquement, ça peut s'entendre parce qu'ils sont dans des difficultés. Donc, tu te dis, si mon jeu, il se plante, ben, c'est la cata. Donc, et donc, ils vont rajouter des surcouches. Tu vois, le fameux au cas où, hein, je mets des air quotes. Au cas où, on va rajouter du crafting, au cas où, on va rajouter du loot, on va rajouter de la montée d'expérience, on va rajouter de la cuisine. Toutes des surcouches dont on se fiche finalement un peu. Le cœur du jeu, c'est vraiment ce monde des paysans et plaisant à parcourir. C'est là-dessus qu'on les attendait. Et toutes ces couches-là, c'est plus pensé pour dire, ah, les joueurs, ils vont râler s'il n'y a pas d'armes à feu. Ah, les joueurs, ils vont râler s'il n'y a pas tel truc et tel truc. Et quand, comme Ubisoft, ton développement est un peu guidé par la peur, tu peux pas faire des grands jeux. Tu peux faire des bons jeux, tu vois, comme Assassin's Mirage, Avatar. Moi, je trouve que c'est des jeux où j'ai trouvé du plaisir et tout. Mais tu peux pas faire des bons jeux. Et je trouve ça dommage parce que l'expérience a montré avec du Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom ou avec du Dark Souls, The Elden Ring, bah, qu'aujourd'hui, si tu fais confiance aux joueurs, bah, les joueurs, ils y arrivent, tu vois, ils arrivent à faire ton jeu et tout. Et tu vois, la Breath of the Wild et Elden Ring, ça a été des ventes que je pense Ubisoft rêve d'avoir un tel niveau de vente. Donc peut-être.
Même voilà. S'il va marcher, je pense. Avatar, il a quand même une licence, j'espère pour eux.
Je trouve la promo est un peu discrète, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde.
Ils sont pas en phase avec les films, ils sont à contre-temps.
Ils ont loupé le créneau des films, effectivement, donc je suis pas convaincu que ça va cartonner tant que ça. Mais moi, j'avoue, alors voilà, je ne nie pas les défauts, et il y a des gros défauts, mais si vous avez l'occasion, essayez, voilà, prendre sur vous, si le début vous saoule, peut-être essayer d'avancer un petit peu. Moi, j'ai, tu vois, par rapport à Horizon Forbidden West, le 2, Horizon est un meilleur jeu, c'est indéniable, mais moi j'ai pris plus de plaisir dans Avatar, là où les deux jeux convergent sur plein d'aspects, je trouve. Hein. Moi je préférais jouer Avatar, j'ai pris plus de plaisir.
Ouais, ok. Faut peut-être faire un petit effort. Après, je suis d'accord avec toi sur le bilan sur Ubisoft. Il faut savoir que c'est un paquebot qui est gigantesque, donc quand en fait ils développent, c'est vraiment par itération, ils vont petit à petit. Ce que t'as expliqué sur les quêtes, c'est que quand t'arrives sur la quête, que tu trouves le level design intéressant, ça m'a fait aussi penser à Valhalla, où en fait quand t'arrivais sur le lieu de la quête annexe, tu savais pas tout de suite quelle forme de quête annexe allait être, et en fait cette église, comment je vais rentrer dans l'église, certaines fois il va falloir aller par-dessus, par-dessous, et ils avaient déjà commencé comme un petit poussé à mettre des idées. Ubisoft, ils vont vraiment, de par leur ampleur, ils vont vraiment petit à petit, néanmoins, tout paquebot qu'ils sont, je pense, comme toi, qu'ils ont besoin de radicalité. C'est qu'ils auraient dû, ils devraient taper sur la table fort en disant, ben, ça, c'est radical. Après, c'est extrêmement risqué, on peut pas leur en vouloir de, tiens, on va mettre 250 millions de risques, là, enfin, Ubisoft, s'ils se plantent sur un jeu aussi gros, ça les met dedans.
Ouais, hein, donc, mais d'autres l'ont fait, tu vois, quand même.
D'autres l'ont fait. Il y a, je pense, une nécessité, un besoin de radicalité, d'aller fort dans une proposition de gameplay, de game design, quelque chose qui n'est pas vu, qui ne sera pas la suite logique et directe de ce qu'ils ont fait par le passé, et proposer quelque chose de nouveau. Ils en sont largement capables, ils ont des studios ultra compétents, avec la petite difficulté, il faut leur reconnaître qu'ils ont travaillé sur une licence, donc une IP extrêmement puissante, et c'est hyper dur de bosser sur une licence.
Surtout là que c'est Disney, c'est James Cameron, donc dans le genre Control Freak.
C'est vraiment très très dur, et là moi, ben, Motive en plus, qui sont sur le prochain Star Wars Outlaw, moi ça me, je suis rassuré
parce ouais, que ça
c'est,
donne envie.
C'est des gens qui savent travailler sous contrainte, donc avec Star Wars c'est toujours Disney donc c'est toujours compliqué, donc moi je suis chaud. Je sais pas s'ils seront radicaux sur ce Star Wars,
ça m'étonnerait, mais ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y aura quand même voilà une piste, une envie d'avancer.
En tout cas,
et toi, tu vois, qui a joué un petit peu au jeu, est-ce que t'as envie de continuer ou est-ce que tu dis non, j'arrête, ça m'a trop saoulé?
Après, moi, je suis ultra dur sur le début des jeux. Et toi, normalement aussi, tu es très dur sur le début des jeux.
Ah non, mais c'est une purge, là. Je l'ai
mais, tu vois, c'est cette appréciation par condition. C'est, alors, il faut attendre 5 heures. Il faut, attention, prends bien cette arme et tout. C'est compliqué. Après, tu l'as, je trouve bien vendu. Moi, j'aime bien les jeux aussi, tu sais, qui arrivent, bah, à délivrer quelque chose dans un second temps et il faut faire ce qu'il faut. T'as parlé des seconds biomes. Tu me l'as dit aussi un peu en off. Il y a d'autres peuplades, des trucs qui vont donner envie.
Ouais,
qui...
alors, c'est pas le monde du feu, le monde de la glace, mais voilà, t'as des forêts, t'as des moments, c'est plus des plaines. Ça reste quand même dans la même typologie d'environnement, mais je trouve que t'as quand même une variété qui arrive. Enfin, Voilà, moi c'est l'arrivée aux plaines vraiment où j'en dis pas plus, mais c'est là où le jeu je commence un peu à décoller. Quoi.
Et si t'es vraiment fan d'Avatar, tu vas pouvoir en apprendre plus. Est-ce qu'on voit des peuplades qu'on ne connaît pas dans les films? Est-ce qu'on déjà d'être immergé dans ce monde au réel? Enfin, si le jeu avait été en VR, je pense que ça aurait été une dinguerie complète pour ceux qui sont fans.
Ouais, mais alors, je pense si t'es passionné du lore d'Avatar, tu trouveras grave ton truc. Quoi. T'as les animaux, les espèces de plantes, t'as quand même un côté où tu peux scanner tout pour apprendre un peu plus d'informations là-dessus. Enfin, ouais, je pense qu'il y a quand même de quoi en tirer. Ça reste assez, ça se passe en parallèle des films, mais ça reste assez indépendant en termes d'enjeux et de personnages. Et dans son dernier tiers, même le jeu reconnecte un peu avec son histoire pour avancer un petit peu plus par rapport à ce qu'il veut raconter.
Ça aussi, c'est une très bonne chose de preuve d'une bonne adaptation, de pas forcément adapter stricto sensu un film. Là, ils ont pris un univers, ils ont réussi à bien se placer. C'est vraiment pas évident. Hein. Moi, j'ai joué à Robocop récemment, qui est, je trouve, une vraie réussite. Peut-être pas de jeu vidéo, mais une vraie réussite d'adaptation. Là, on est, je crois, aussi dans une belle réussite.
Et c'est vrai qu'on sous-estime souvent le côté, la qualité d'adaptation d'un matériau brut ou pas. Quoi.
C'est hyper dur.
Ça reste déjà un challenge. Il faut faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, aller dans la bonne direction. Et rien que pour ça, bon voilà, c'est plutôt fidèle.
Ben merci Nico, ça fait envie, malgré le fait que voilà, ça a pas la chronique au début, elle était pas forcément toute rose pour Avatar, alors que eux sont bleus. C'est la fin de l'émission, c'est la fin de l'année, on fait ce qu'on peut. On vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Dans cette période de fête de Noël, vous êtes toujours plus à nous écouter et on sait voilà que les dernières émissions vous les attendez. Les Sœurs Strike, bilan de l'équipe, ils arrivent. Le bilan Red Alert, ils arrivent. On vous le répète, on vous lâche pas. Merci encore, de mettre des notes sur les applications d'écoute de podcast, les pouces sur YouTube, les petits abos, voilà. Toujours pareil, hein, c'est pas un ultimatum, mais si vous aimez bien la version vidéo sur YouTube et Spotify, donnez-leur
regardez-la.
Ouais, donnez de la force parce que voilà, c'est beaucoup de taf pour Ken, pour nous on est face une cam alors qu'on pourrait s'habiller n'importe comment et s'en foutre alors que là on fait attention. Vous avez vu qu'il y a un code couleur tout, là, tout on est, aujourd'hui, on est habillé en noir. Donc voilà, merci à tous.
Ouais, et donc voilà, si je dis pas de bêtises, prochain Red Alert, a priori, ça sera plutôt la première semaine de janvier tel qu'on l'a imaginé, donc sur notre bilan à nous de l'année écoulée.
Ouais.
Mais la semaine prochaine, vous aurez le Sir Strike bilan de l'équipe et notre top jeu vidéo. Et dans deux semaines, le bilan, le strike classique avec les chroniques, tout ça.
Oui, et donc la semaine prochaine, c'est le 24, c'est ça, ça sera dimanche, mais mercredi, parce que 24, c'est loin. Alors, on vous a préparé une émission pour la veille de Noël et la veille du jour de l'an, 24 et 31, mais la semaine prochaine, ça fait long le 24, donc on vous a prévu un truc mercredi prochain.
Mercredi 20, voilà.
Avec du FF7 Remake.
Ouais.
Et Pierre Lovati.
Sœur d'émission.
Qui sera avec nous, dans vos oreilles. Nous, on l'a déjà fait depuis un bail. Nico, on le dit quand même rapide, on vous a parlé d'un livre sur le JRPG tout à l'heure, donc qu'est-ce que c'est des livres? On fait des podcasts, mais on fait aussi des bouquins.
Et oui, parce qu'on est avant tout une maison d'édition, donc si vous regardez ou écoutez l'émission au moment où elle sort, il est encore temps de commander pour Noël, hein, y a moyen que ça arrive à temps pour l'instant. Deux, trois jours plus tard, ça sera peut-être pas la même, mais en tout cas, voilà, le cadeau idéal, j'ai envie de dire, un bouquin sœur d'édition pour faire plaisir, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la pop culture, cinéma, animation, série, il y a forcément un bouquin qui vous intéressera.
On a sorti un beau livre sur Spielberg, ça, si c'est pas un cadeau parfait. En tout cas, n'attendez pas trop si vous voulez commander en ligne là où il y a les éditions First Print qui sont exclusives à notre site. Néanmoins, sachez que nous sommes disponibles dans toutes les bonnes librairies. S'il y a pas les livres en rayon, n'hésitez pas à demander à votre libraire où sont les livres Serd.
Faites-lui connaître, parce que peut-être qu'il connaît pas, en fait.
Et on est dispo Fnac, Cultura, librairie indépendante. On est partout en France. Donc, voilà pour ce qui est des cadeaux à venir. Je te pose pas la question. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? On vient de le dire.
On vient de le dire. Et donc, prochain Red Alert dans deux semaines et demie.
Ça va être long.
On aura un joyeux Noël et bonne année d'ici là.
Voilà. Donc, écoute, on vous le dit déjà. Joyeux Noël et bonne année.
Bye.